Cette session va être modérée par mon ami Pierre Jodouin, qui est démographe au ministère français des Affaires étrangères, et par moi-même, Mamadou Traoré. Je suis professeur de gynécologie obstétrique à l'université de Bamako, secrétaire général de la Société africaine de gynécologie obstétrique et vice-président de la Société francophone de contraception. Je vais demander aux intervenants d'être brefs et précis. Ils auront 30 minutes pour faire leur présentation.
Pardonnez-moi par avance mon manque de connaissances, justement. C'est pour ça que je viens aussi participer à ce colloque, sur toutes les questions de santé, mais qui m'intéressent évidemment particulièrement puisqu'elles sont au cœur des transformations démographiques en Afrique. Voilà, je vais passer donc la parole sans plus attendre à Luc de Bernis sur sa présentation sur les tendances de planification familiale en Afrique.
Bonjour et évidemment, comme il se doit, merci aux organisateurs de m'avoir donné la possibilité de présenter sur un sujet sur lequel évidemment je travaille, mais sur lequel je ne suis pas forcément spécialiste et je dis d'emblée, je ne suis pas démographe. Donc, je vais essayer de donner un point de vue général sur la planification familiale et essayer de voir quels sont les différentes les angles d'attaque qu'on peut avoir sur cette question qui me paraît évidemment fondamentale lorsqu'on parle de santé maternelle, mais en sachant qu'un certain nombre des aspects dont je vais parler sont des aspects pour lesquels je ne me prétends surtout pas être spécialiste. Et d'emblée, j'ai mis cette diapositive, et je vais avoir des diapos en anglais et parler en français, de façon à ce qu'on puisse partager dans les deux langues. D'emblée, je mets cette diapo qui est tirée d'un document de la Banque mondiale et qui donne l'analyse de la Banque mondiale du problème de la fécondité dans les pays de l'Afrique subsaharienne. Et parce que les deux approches en matière de population et en matière de droits humains sont les deux approches prééminentes aujourd'hui et qui doivent non seulement pas s'affronter, mais certainement collaborer et s'associer de façon à ce que les problèmes puissent être résolus pour le meilleur avantage des populations, particulièrement des femmes. Et donc, la banque analyse le fait que l'Afrique subsaharienne est en train de faire face à des défis majeurs en termes de développement socio-économique, en termes de nutrition, en termes de santé, et que, évidemment, la très forte natalité, l'augmentation extrêmement rapide de la population est un défi qui rend les choses beaucoup plus difficiles. La deuxième approche, c'est celle des droits humains et c'est celle qui a été en particulier celle de la conférence internationale sur la population et le développement en 94 au Caire et qui a pris le contre-pied de ce qui se passait jusqu'à présent. Il y a eu un changement d'attitude où probablement beaucoup en résistance aux politiques coercitives qui avaient été mises en place dans un certain nombre de pays pour réduire à tout prix la natalité, parce qu'on savait que le problème de population était un problème central pour le développement, et bien de façon à prendre le contre-pied de ces politiques coercitives, l'accent a été mis définitivement sur le droit, et sur le droit de chaque individu à décider du nombre, de l'espacement et du moment auquel il veut avoir des enfants. Évidemment, ça s'adresse aux couples et ça s'adresse en premier lieu aux femmes. Et le texte que vous avez sous les yeux aussi emploie des mots extrêmement importants comme discrimination, coercition, donc, comme je vous le disais, en réaction à des politiques qui avaient été dénoncées et qui ont créé, il faut bien le dire, des problèmes majeurs et des conséquences en termes de financement des programmes de planning familial. La planification familiale se retrouve aussi, et c'est une autre façon de le dire, mais ça revient exactement au même, quand on réfléchit aux différents objectifs du millénaire pour le développement, vous savez qu'il y en a 8, finalement, pour les 7 objectifs parmi les 8, le 8e étant sur les partenariats, donc ça ne s'applique pas plus au planning familial qu'aux autres questions, mais Pour ce qui est des 7 premiers objectifs du millénaire pour le développement, eh bien le planning familial peut être considéré comme un point central. Quand on parle de réduction de la pauvreté et de réduction de la faim, évidemment le problème de population apparaît majeur et immédiat. Lorsqu'on parle d'éducation primaire, on ne peut pas s'empêcher de faire la relation avec le planning familial, avec la santé maternelle, quand on sait l'importance de la connaissance, l'importance de la capacité de décision que les femmes doivent avoir afin de décider pour leur propre santé. Et donc l'éducation est un facteur fondamental. Mais en même temps, réduire la mortalité maternelle, c'est aussi améliorer le statut des femmes et c'est aussi insister sur l'éducation. Donc c'est vraiment à double sens. Pour l'objectif du millénaire numéro 3, il est évident que la santé maternelle joue un rôle majeur. Quand on parle de genre, la plus grande inégalité de genre, la plus grande inégalité en santé est celle que les femmes subissent lorsqu'elles meurent lors d'une grossesse ou lors d'un accouchement. Et évidemment, lorsqu'on parle de développement et d'environnement pérenne, là aussi, les problèmes de population ont un rôle à jouer qui est primordial. Donc, on peut dire, vraiment sans avoir crainte de se tromper, que quand on parle de planning familial et quand on parle de population, on est en train de s'occuper de l'ensemble des objectifs du millénaire pour le développement. Et c'est, je crois, ce que je voulais vous dire en premier, parce que ça situe bien l'importance de la planification familiale au sein de la réflexion sur la population. C'est pas la seule approche, mais évidemment, si on n'a pas l'outil de la planification familiale pour travailler en termes sur la question des populations, c'est évidemment difficile de faire des progrès. Et puis donc, les objectifs 4 qui sont la mortalité infantile, l'objectif 5 qui est la mortalité maternelle, et l'objectif 6 qui est relatif à l'épidémie de VIH-Sida, malaria et d'autres maladies transmissibles, sont les 3 objectifs du millénaire en santé. Et comme vous le savez déjà, bien sûr, il est très important, et c'est pour la première fois qu'au niveau mondial, les objectifs de santé sont liés de manière aussi claire aux objectifs de développement. Et pour nous, c'est extrêmement important, quand on se bat pour l'amélioration de la santé maternelle ou de la santé des populations, de savoir qu'il y a une compréhension qui a grandi et qui fait que la santé n'est pas quelque chose d'isolé, mais que la santé est quelque chose d'essentiel pour le développement socio-économique, mais en même temps que la santé va bénéficier du développement socio-économique. Et quand on parlera de la santé maternelle, on verra bien comment cette santé maternelle est totalement liée aux capacités des pays à développer leur système socio-économique. Il a été dit tout à l'heure par mon ami Sepatiano que la santé maternelle, l'objectif 5, avait 2 grandes parts. La part qui est liée à la mortalité maternelle elle-même, avec 2 indicateurs, qui est la réduction du ratio de mortalité maternelle, le second indicateur étant le pourcentage d'accouchements assistés par du personnel compétent. Et puis, il y a une deuxième partie qui a été ajoutée à cet objectif numéro 5, deuxième partie pour laquelle un certain nombre d'organisations et de mouvements de femmes en particulier se sont battus pendant plusieurs années, pour qu'enfin, en 2007, soit accepté que l'objectif numéro 5B soit attaché à cet objectif numéro 5. Et l'objectif numéro 5B, c'est l'accès universel aux soins de santé de la reproduction. Ces soins de santé de la reproduction recouvrent le planning familial avec 2 indicateurs que j'ai mis là en rouge. La réduction des besoins non couverts en matière de planning familial et l'augmentation du taux de prévalence contraceptive dans les pays. Et vous voyez, il y a 3 autres indicateurs qui essaient de couvrir l'ensemble de ce qu'on appelle les soins de santé de la reproduction. Donc c'est aussi dans ce contexte des OMD que nous travaillons, et il faut le reconnaître, les OMD ont donné à ces indicateurs et ont donné à ces éléments de santé une place qu'ils n'avaient jamais eue. Et j'en veux pour preuve le dernier sommet qui a eu lieu à New York en mois de septembre, où pour la première fois et par décision du secrétaire général des Nations Unies, la santé maternelle et la santé infantile sont devenus les premiers objectifs de l'agenda international. Et c'est la première fois que ça se que ça se présente, et pour nous, c'est un élément extraordinairement important. Et on va le voir, la planification familiale est aussi largement associée à cette question de la mortalité maternelle. Je ne vais pas insister là-dessus parce que j'aurai l'occasion, et nous aurons l'occasion de parler de la santé maternelle un peu plus tard lors de cette réunion, en particulier demain, et je voulais simplement rappeler qu'il y avait trois stratégies majeures pour réduire la santé, la mortalité maternelle, avec un impact attendu en termes de mortalité néonatale et en termes de mortalité infantile aussi. Et le premier de ces piliers, c'est la planification familiale. Donc on est bien au centre de ces questions aussi. J'ai emprunté cette diapositive parce que, et je ne veux surtout pas faire une présentation clinique et technique, mais simplement pour se rappeler que la planification familiale, avec les différentes méthodes qui vous sont rappelées à droite, agit sur différents éléments qui sont extrêmement importants, je crois, dont on doit se souvenir. L'aide à espacer les naissances. Donc ça, c'est un impact sur la santé maternelle, sur la santé néonatale, sur la santé infantile. Ça a été prouvé depuis longtemps, on le sait. Le planning familial n'est pas uniquement utile pour les femmes, il est utile pour les enfants. Très important de le noter. Le second, c'est qu'il évite des grossesses à haut risque chez des adolescentes, chez des femmes qui sont âgées. On sait que le risque de mortalité maternelle augmente considérablement avec l'âge de la femme. Chez les femmes qui ont une nombreuse naissance, donc l'espacement des naissances, on sait que ça joue un rôle, ça a été très bien étudié et documenté, mais aussi des femmes qui ont des problèmes médicaux et qui doivent absolument éviter d'avoir soit trop de grossesses, soit de limiter le nombre des grossesses. Et puis un point très important dont je pense que nous parlerons longuement dans ce séminaire, c'est la question de l'avortement, et qu'évidemment avoir accès, lorsqu'on en a besoin, au planning familial, c'est là aussi avoir un impact absolument majeur sur la proportion ou sur le nombre d'avortements. Beaucoup, une grosse proportion des avortements, et particulièrement dans les pays en développement, sont liés au fait que les femmes n'aient pas accès aux services de planification familiale et qu'elles essaient de trouver tous les moyens possibles pour réduire leur grossesse, y compris des moyens extrêmement dangereux. Nous parlons ici d'avortements pratiqués dans des conditions de non-sécurité médicale, comme l'OMS l'appelle, et qui sont des avortements qui sont une très grande cause de mortalité maternelle. Dans certains pays d'Afrique subsaharienne, l'avortement est la première cause de mortalité maternelle. Donc c'est un problème évidemment majeur pour lequel la planification familiale a un rôle critique à jouer. Je crois que j'ai fait le tour, et sans compter que quand on fait du planning familial, on fait des examens médicaux, et c'est quelquefois la seule ou la première fois que les femmes peuvent avoir accès à un dépistage de maladies sexuellement transmissibles, et pourquoi pas de cancer du col ou de cancer du sein, qui sont aussi des pathologies qui ne touchent pas, loin de là, que les pays riches, mais qui sont des pathologies extrêmement prégnantes d'ores et déjà dans les pays les plus pauvres. Lorsqu'on parle de services de santé, et là je voudrais arriver peut-être à des choses qui nous intéressent un peu plus, on parle de différentes composantes. On parle des services, mais évidemment, on doit parler aussi des usagers, on doit parler des communautés, on doit parler des femmes, on doit parler des couples. Lorsqu'on parle de services, on parle de politique, de gouvernance, on parle de qualité, de système d'assurance de qualité, et là, le mot supervision peut être relevé dans ce domaine. On parle de ressources humaines, et quand on parle de ressources humaines, on parle non seulement de formation, mais on parle de gestion, c'est-à-dire comment ces ressources humaines sont soutenues par le système de santé de façon à délivrer la meilleure qualité des soins. Et c'est un problème qui nous intéresse, et je suis extrêmement reconnaissant depuis maintenant un certain temps à nos camarades anthropologues de nous avoir ouvert les yeux sur toute une série de problématiques liées à la façon dont les personnels de santé se comportent et comment expliquer ces comportements et comment jouer avec ces comportements de façon à améliorer la qualité des soins à travers un meilleur respect des personnels, mais aussi à travers un travail de fond sur le respect des protocoles, sur une médecine qui est basée sur l'évidence et sur une médecine qui réussit à allier le professionnalisme et là, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux et à la façon dont les professionnels se situent dans leur propre société. Donc ce sont des éléments extrêmement importants. On ne parle pas de ressources humaines uniquement en termes de formation. Et puis, il y a évidemment tout ce qui fait qu'un service peut fonctionner. Il faut que les drogues soient là, il faut que l'équipement soit là, il faut que les locaux soient corrects, il faut qu'il y ait de l'eau et l'électricité, ce qui n'arrive pas toujours. Il faut qu'il y ait un accès. Et l'accès, on en reparlera certainement au cours de ces journées, l'accès, c'est pas simplement l'accès géographique, évidemment, c'est l'accès culturel, encore une fois, donc on revient à ces questions, est-ce que ces services sont acceptables pour les communautés, est-ce que les communautés vont avoir envie d'utiliser ces services? Ce sont les accès financiers qui sont évidemment majeurs, et on a toute une série d'initiatives dans le monde maintenant pour rendre l'accès financier, et on a des chercheurs dans cette salle qui travaillent de manière extraordinairement importante sur ces questions. Et puis, la question de ce qui n'est pas sur cette diapo, qui est la question de la redevabilité. La question de l'accountabilité, qui est un mot qui ne se traduit pas en anglais, mais redevabilité est peut-être ce qui traduit le mieux ce terme complexe, mais qui fait que les services de santé doivent être redevables de ce qu'ils font. Redevables vis-à-vis des populations, aussi bien que redevables vis-à-vis des gouvernements, et peut-être aussi redevables vis-à-vis des gens qui les financent. Et donc, la redevabilité, c'est un aspect dont on pourra discuter, mais qui me paraît une porte, une voie de réflexion sur l'amélioration de la qualité des soins, l'amélioration de la participation des communautés à la gestion des services de santé et l'amélioration de l'utilisation des services de santé par les populations. Je crois que la redevabilité est une voie d'abord extrêmement riche. Et puis, on doit parler de la demande, comme je l'ai dit, et donc tous les aspects qui concernent la communauté, comment la communauté voit les services de santé, comment ces services de santé rentrent en conflit ou pas avec les perceptions de la communauté, perceptions sur sur sa maladie, perceptions sur ce que c'est qu'un soin de santé. Beaucoup de questions, et je suis persuadé que nous allons en parler longtemps. Et puis, évidemment, tout ça est dans un cadre de politique, de loi, de régulation, de règles, et qu'il faut prendre en compte lorsqu'on parle des systèmes de santé. Quelle est la situation aujourd'hui en matière de planification familiale? L'Afrique, on le disait tout à l'heure, a un des défis les plus importants de la planète, ou le plus important de la planète en matière de population et de santé. Les 25 parmi les 28 pays à haute fécondité sont africains. C'est-à-dire des pays où la moyenne du nombre d'enfants par femme est au-dessus de 5. Le deuxième point ici, c'est que malgré, j'allais dire, elle prenait pas mal, je dis malgré l'épidémie de sida, c'est une façon de le dire, l'augmentation des populations en Afrique est extrêmement rapide. Le doublement des populations en Afrique se fait en 28 ans, en moyenne. Ça veut dire que les États font face à des besoins non seulement grandissants, mais de plus en plus complexes. La part des adolescents, en particulier, dans cette question, devient énorme, et je vais en parler un tout petit peu plus tard. La troisième donnée importante, peut-être, à avoir en tête, c'est la question de la prévalence contraceptive, qui reste extrêmement faible, je vais vous donner quelques chiffres, et surtout, dont l'accroissement est extrêmement lent, 0,5 par an. C'est extrêmement lent. À cette vitesse-là, ce n'est pas en 2020 qu'on va atteindre les objectifs de 2015, mais c'est en 2050, 60 ou 70. Pardon, ce n'est pas ça qu'il faut que je fasse, c'est ça. La question des besoins non couverts en matière de planning familial. On l'a vu tout à l'heure, c'est un des indicateurs de l'objectif pour du développement, l'objectif du millénaire pour le développement, numéro 5B. Donc, besoins non couverts en planning familial. Dans les pays les plus pauvres, 6 sur 10 des couples qui désirent une contraception n'ont pas accès à cette contraception. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, dans les pays pauvres, il n'y a pas de demande en matière de contraception. Cette donnée est totalement fausse. Dans les pays pauvres, ou j'allais dire, y compris dans les pays pauvres, mais peut-être encore plus dans les pays pauvres, la demande en matière de contraception est importante. Et c'est une donnée sur laquelle il faut qu'on réfléchisse, parce que ça veut dire qu'il n'est pas question là, pour atteindre ces populations, de faire des grandes campagnes. Il est question de leur donner l'accès aux moyens de contraception moderne dont ils ont besoin et qu'ils demandent. Particulièrement, les populations les plus défavorisées sont à risque de ne pas atteindre les services de planning familial. Et dans les services de planning familial, il y a des méthodes qui sont des méthodes dites duales, c'est-à-dire qui jouent à la fois sur l'espacement des naissances et à la fois sur la protection. Et protection sur les maladies transmissibles, dont en particulier le VIH et les autres maladies sexuellement transmissibles. Et ce sont donc des populations qui se retrouvent à risque de grossesse et à risque épidémique beaucoup plus important que le reste des populations qui ont accès. Donc c'est l'augmentation des inégalités par l'absence d'accès à des services de santé et à des services de planning familial. Toutes les conséquences du manque d'accès à des services de planification familiale sont bien connues. Et là, j'en ai cité quelques-unes. Les grossesses non désirées, avec tout ce que ça entraîne comme risque de mortalité et de morbidité, non seulement pour la mère, mais aussi pour l'enfant. Et on sait très bien quels sont les risques pour l'enfant, en particulier de maltraitance et de mortalité ou de morbidité, lorsque les grossesses ne sont pas désirées. Le risque, on l'a dit, d'avortement, mais d'avortement dans des conditions de mauvaise sécurité médicale, et le risque, je l'ai dit, de mortalité et de morbidité maternelle. Et j'ai déjà parlé très brièvement du risque accru en matière de VIH. Je suis content de savoir qu'Audi Aubert est connecté, mais ce n'est pas dans ma diapo. Quelques chiffres très brièvement sur les besoins non couverts à nouveau. C'est assez intéressant. Dans les pays en développement, globalement, sur la gauche, vous voyez que finalement, on peut se dire, les besoins non couverts, ça représente pas grand-chose. C'est une proportion, d'accord, il faut s'en occuper, mais c'est pas majeur. Mais regardez à droite, les pays les moins développés, les pays les plus pauvres, la demande en contraception est supérieure à l'offre. C'est dire que là, non seulement on a à faire face à une demande urgente, mais on peut se dire, quand les bailleurs de fonds nous demandent de trouver des stratégies à impact rapide et important, que là, nous avons en face de nous une façon de résoudre un problème, probablement de manière plus rapide que d'autres. Parce que donner accès à des populations qui sont déjà sensibilisées et qui sont déjà en demande de contraception est probablement moins difficile que de convaincre des populations que la planification familiale est importante pour leur santé. Donc on a là quelque chose auquel je crois qu'il faut qu'on réfléchisse et l'aide des anthropologues, des démographes et des autres spécialistes doit certainement nous permettre probablement de trouver des façons d'agir assez rapides qui nous permettraient de faire des progrès notables et rapides. Chaque année, pour compléter le tableau de ce qu'on sait en matière de données statistiques, on estime que 42 millions de femmes demandent ou cherchent ou ont un avortement. La moitié de ces avortements sont des avortements faits en mauvaises conditions de sécurité avec cette forte mortalité, morbidité que nous avons déjà évoquée. On sait l'impact de la contraception sur la mortalité infantile, et les chiffres sont donnés ici. 2,7 millions de décès infantiles sont évités, ainsi que 60 millions d'années de vie en bonne santé si les services de planification familiale sont mises à disposition des populations, ce sont des calculs de la Banque mondiale. Et comme on l'a dit, le planning familial, et particulièrement le préservatif masculin et le préservatif féminin, sont deux outils de diminution de la transmission du VIH et de diminution de la transmission de la transmission de l'infection de la mère ou des parents aux enfants. On sait très bien aussi que la relation entre l'utilisation des moyens de planning familial et la mortalité maternelle sont totalement linéaires. On peut faire le lien entre, à gauche, les pays où l'accès au planning familial est important et où la mortalité maternelle est la plus basse, vous voyez, en dessous de 200 pour la première colonne, alors que lorsque on se trouve dans des pays avec forte mortalité maternelle, eh bien, comme par hasard, l'accès au planning familial, évidemment, n'est pas bon. Intéressant aussi pour travailler sur les stratégies à mettre en œuvre et pour dire qu'il faut mettre en œuvre plus d'une stratégie à la fois, qu'il faut travailler à la fois sur le planning familial et sur l'accès aux soins de santé maternelle. Vous avez à gauche les taux actuels avec en vert au-dessus les décès relatifs aux grossesses non désirées et en bleu en dessous les décès relatifs aux grossesses désirées. Eh bien, si on travaille sur le planning familial, la deuxième colonne, on va réduire considérablement les décès liés aux grossesses non désirées. Si on travaille sur le planning, sur la santé maternelle, troisième colonne, on va réduire les deux, on va réduire évidemment la mortalité maternelle sur les grossesses désirées par l'amélioration de la qualité des soins, mais on va aussi, par l'amélioration de la même qualité des soins dans les services de santé maternelle, avoir un impact sur les grossesses non désirées. Et puis si on allie les deux stratégies, alors on a un impact majeur à la fois sur les grossesses désirées et sur les grossesses non désirées. La question de l'équité se pose, on en a déjà un petit peu parlé auparavant, mais je voudrais insister sur la question des adolescents. C'est un problème majeur qui est en train d'augmenter, pour ne pas dire exploser, à la figure de tous les gouvernements, et particulièrement en Afrique subsaharienne, qui est encore très négligé parce qu'on ne sait pas comment s'y prendre. Et si on n'investit pas de manière importante sur la question de la sexualité et des soins de santé de la reproduction des adolescents, les choses risquent d'être extrêmement délicates à régler par la suite, parce que les choses vont s'aggraver et peuvent s'aggraver de manière extrêmement rapide. La question de la sexualité des adolescents, la question de leur accès à l'éducation, à l'information et aux services de santé est une question majeure, où là, j'attends vraiment qu'avec les anthropologues et autres spécialistes, on discute de savoir ce que nous pouvons faire. Nous ne savons pas encore aujourd'hui, nous n'avons pas encore assez de preuves scientifiques de ce qu'il faut faire, de ce qui marche bien. Une des choses que je crois avoir apprises, c'est que faire des systèmes de santé spécialisés uniquement pour les adolescents n'est pas la bonne voie. Il faut certainement travailler sur l'intégration, faire que les services qui sont ouverts à la population soient capables, c'est ce qu'on appelle « friendly services for adolescents », soient capables de travailler aussi bien avec les adolescents. Et je veux dire de les accueillir. Et on sait très très bien que la réaction, souvent encore, de personnel de santé lorsqu'ils voient des adolescents, c'est de les blâmer, c'est de les éjecter, et c'est pas de les prendre en charge et de les prendre en compte. Et puis évidemment, la question de l'éducation, la question de l'école en matière de sexualité, en matière de et particulièrement des adolescents, évidemment, est une question majeure. Autre problème d'équité, parce que c'est le challenge que nous avons, c'est le défi que nous avons tous quand on parle de programme, c'est qu'on ne peut pas travailler uniquement avec les populations qui sont proches et déjà acquises à la cause, donc les classes moyennes. Il faut travailler avec les pauvres et les déshérités. C'est la seule façon de rendre les résultats des programmes pérennes. Si on ne s'attaque pas à la partie de la population qui est la plus pauvre, on ne peut pas avoir de pérennité dans les résultats que nous obtenons en matière de réduction de la mortalité maternelle, par exemple. Donc il faut avoir des stratégies spécifiques pour s'assurer que les programmes que nous mettons en œuvre incluent les populations les plus en manque, les plus pauvres sur le plan socio-économique. Les populations indigènes, c'est vrai, en Afrique, c'est plutôt vrai dans des pays où on le voit, les différences sont déjà majeures. Je me rappelle d'expériences au Vietnam et dans d'autres pays. La question des individus qui vivent avec des handicaps, merci beaucoup. Les personnes vivant avec le VIH-SIDA, évidemment, les personnes déplacées et, pour tous les pays, là aussi, la question des migrants. L'on sait très bien que la santé maternelle, la mortalité maternelle représente la plus grande inégalité dans les pays et entre les pays, entre les riches et les pauvres. L'accès aux soins de reproduction, et ça a été démontré par des travaux très très sérieux de la Banque mondiale depuis un certain temps, représente là aussi la plus grande inégalité en matière d'accès aux soins. Une réunion a eu lieu à New York en 2009 sur la question du planning familial et de l'équité. Cette réunion a réuni une quarantaine ou une cinquantaine de chercheurs venant du monde entier, qui ont réfléchi à la question de l'équité et de la planification familiale. Parmi les recommandations de cette réunion, j'en ai tiré deux parce que je pense qu'elle est totalement en ligne avec nos travaux et elle a trait à la recherche. Il faut soutenir la recherche à la fois techniquement et financièrement pour travailler sur les barrières auxquelles font face les groupes les plus désavantagés, pour mesurer l'impact des programmes sur la réduction des inégalités en matière d'accès et d'utilisation des programmes de planning familial. Première recommandation que j'ai retenue. La deuxième, peut-être plus large, est qu'il faut travailler à une meilleure identification des besoins prioritaires pour la recherche, pour le suivi des programmes et leur traduction pour des programmes et des politiques qui permettent de réduire les inégalités dans l'accès aux services de soins reproductifs au niveau des pays. Donc je pense que ce sont deux recommandations dont nous pouvons, et je dirais, auxquelles ce séminaire finalement tente de répondre, et je pense que c'est important que nous puissions rapporter sur ces questions afin d'avancer. J'en termine pour redire ce que j'ai dit en introduction. Comment les choses évoluent en matière de planning familial? Eh bien, c'est avec ces deux approches, des travaux de plus en plus importants qui montrent le bénéfice d'avoir des politiques de population pour le développement socio-économique. Donc, c'est un appel aux États à prendre en compte à nouveau leur politique de population de manière très sérieuse. Et encore une fois, la planification familiale est un des éléments, mais ce n'est pas le seul. Et la seconde dimension, auquel peut-être nous sommes plus familiers, parce que ça fait partie du droit à l'accès aux soins, c'est la question du droit des individus à avoir accès aux soins de santé et de la reproduction. Et c'est là-dessus que je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.